Radio-Canada, audio.
Ce serait pas possible de faire un balado sur les maladies rares sans parler du Saguenay. Le Saguenay, c'est un cas exceptionnel pour les maladies rares au Québec. La région est reconnue mondialement pour son haut taux de prévalence de certaines maladies génétiques et il existe beaucoup de mythes à défaire autour de cela. Rare, la loterie génétique, c'est un balado qui s'intéresse aux maladies rares ou orphelines. La communauté scientifique en aurait identifié pas moins de 7000 à travers le monde, et au Québec seulement, pas moins de 700 000 personnes vivraient au quotidien avec l'une d'entre elles. Bref, c'est pas si rare que ça. Et de ces 700 000 personnes, on compte moi, Kevin Breton. Je suis journaliste au service des sports de Radio-Canada, mais aussi porteur d'un gène bien particulier qui fait de moi quelqu'un, bien, de pas mal rare. Et dans cette série d'épisodes, on va explorer ensemble ce que ça implique d'être une petite rareté dans le patrimoine génétique de l'humanité. Le Saguenay est connu pour son fjord majestueux, pour ses grands espaces verts et ses beaux paysages, pour ses baleines ou ses baleines, ses selons, pour ses délicieuses bières de microbrasserie, réputé pour être une pépinière de joueurs de hockey, c'est là qu'est né Georges Vézina, surnommé le concombre de Chicoutimi. Mais le Saguenay est aussi mondialement connu pour son haut taux de prévalence de certaines maladies génétiques, plus précisément la fibrose kystique, l'acidose lactique, l'hypercholestérolémie familiale et la dystrophie myotonique. Puis, il existe bien des mythes autour de ça, des fausses croyances qui ont la couenne dure et qui sont difficiles à effacer de l'imaginaire populaire. Comme quoi la consanguinité, la procréation entre membres d'une même famille, serait à l'origine de ce phénomène. Même à l'intérieur de la population locale, c'est 50 % des gens qui habitent au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui pensent que ces maladies sont causées par la consanguinité. Mais c'est complètement faux, comme l'a bien expliqué Dr. Luigi Bouchard, professeur titulaire au département de biochimie et de génomique fonctionnelle de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke.
Oui, c'est pas vrai du tout. C'est vrai que la consanguinité peut être associée à une surprévalence de certaines maladies rares, mais dans la région, c'est pas vrai. D'ailleurs, ça a été vérifié, là, parce qu'on peut le vérifier relativement facilement, parce que la consanguinité, ça se définit comme étant une parenté sanguine entre descendants qui comptent un ou des ancêtres immédiats communs. Et lorsqu'on a fait cette étude-là ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis c'est une étude, entre autres, qui a été menée par Hélène Vézina à l'Université du Québec à Chicoutimi, elle a démontré, Hélène et son équipe, que la consanguinité était comparable ou même peut-être moins grande dans la région par rapport à d'autres régions du Québec. Et donc, c'est vraiment un mythe là, qu'on doit travailler à défaire.
Pourquoi le Saguenay est donc aux prises avec toutes ces maladies rares et tous ces défis de santé publique-là si c'est pas la consanguinité?
Oui. Bien, peut-être la première chose que je peux dire, c'est que c'est vrai qu'il y a quelques maladies là, qui sont plus fréquentes dans la région qu'ailleurs, que dans d'autres régions du Québec, mais globalement, on n'est pas plus malade, entre guillemets, génétiquement que les autres régions du Québec. L'effet fondateur, en fait, c'est associé aux migrations successives qui ont permis de coloniser le Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean par la suite. C'est qu'à chaque vague migratoire, donc la première de la France à la vallée du Saint-Laurent, de la vallée du Saint-Laurent à Charlevoix et de Charlevoix au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une sélection de certains caractères génétiques qui s'opèrent. Puis peut-être que l'analogie que je peux prendre, c'est l'analogie de billes de différentes couleurs. Donc, si j'avais un seau ou un bocal avec une centaine de billes qui auraient 10 billes de 10 couleurs différentes là, pour faire un total de 100, si je prends une poignée de billes au hasard, je n'aurais pas une... Si, par exemple, je prenais 10 billes au hasard, c'est très peu probable que j'aie une bille de chaque couleur. Et donc, à chaque vague migratoire, il y a une sélection de ces couleurs-là qui se fait. Et à chaque vague migratoire, il peut y avoir une amplification d'une couleur. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir dans une poignée de billes, par chance, 5 billes rouges, puis après ça, une bille bleue, mauve, verte et orange, par exemple. Et donc, c'est un peu ce qui est arrivé avec les maladies qui sont fréquentes dans la région, c'est qu'à chaque vague migratoire, il y a une sélection de certains caractères génétiques, donc qui représentent ces couleurs-là, qui sont représentées par les couleurs des billes. Ce qui fait qu'à l'arrivée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait moins de billes, il y avait moins de couleurs à travers nos billes, puis il y en avait des billes de couleurs qui étaient plus fréquentes, qui étaient surreprésentées par rapport au bocal de départ exactement. Ce qui fait que, par exemple, si on prend mon exemple de la bille rouge, et la bille rouge est une maladie rare, une maladie récessive, bien, il y a une amplification de la couleur rouge et donc il y a une amplification de cette maladie rare là, dans la population d'arrivée, donc ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Dr. Luigi Bouchard est aussi chef du service de biologie moléculaire et génétique à l'hôpital de Chicoutimi. Ils ont développé un ensemble de tests pour diagnostiquer les maladies les plus fréquentes dans la région.
Mon programme de recherche s'intéresse beaucoup à la santé de la mère et de l'enfant et des impacts là, de la transmission de certaines maladies aux enfants. Et c'est dans ce contexte-là que j'en suis arrivé à m'intéresser aux maladies héréditaires rares là, qui sont un peu plus fréquentes dans la région. Faut dire que moi, je suis originaire là, aussi de la région et donc j'avais déjà cette sensibilité-là là, parce que je connaissais déjà un peu le contexte régional. Mais évidemment, quand je me suis installé ici à Chicoutimi, j'ai pensé que c'était important de s'y intéresser. Je dirige aussi un laboratoire de génétique et de biologie moléculaire où on réalise des tests génétiques. Donc, dans le cadre de mon programme de recherche, on développe des tests de dépistage et des tests diagnostiques génétiques. Depuis le lancement de l'offre de tests de porteur en 2010, là, il y a plus de 20 000 personnes qui ont eu accès à l'offre de tests de porteur. Puis on teste l'acidose lactique, la polyneuropathie, l'ataxie spastique de Charlevoix-Saguenay ainsi que la tyrosinémie. Et ces maladies avaient été choisies au départ pour un certain nombre de raisons, mais entre autres parce que ce sont des maladies qui sont fréquentes, c'est-à-dire que le taux de porteurs dans la région est environ une personne sur 20. Donc, il y a une personne sur 20 qui est porteuse de l'une ou l'autre de ces quatre maladies-là.
C'est énorme.
C'est énorme. Ça veut dire que si on cumule là, le taux de porteurs de chacune des quatre maladies, là, c'est une personne sur 5 qui serait porteuse de l'une ou l'autre des maladies. Et ces maladies-là avaient été choisies aussi non seulement parce qu'elles étaient fréquentes, mais aussi parce que c'est des maladies là, qui sont très graves, souvent associées à une mortalité en très bas âge. Et donc, on pensait que c'était important d'offrir aux parents une information de qualité sur laquelle les parents peuvent se baser pour décider de leur choix reproductif, c'est-à-dire pour amoindrir le choc. Puis, ce que les études montrent aussi, une fois que le résultat est reçu par les parents, ce sont les parents là, qui prennent la décision sur leur projet familial, donc c'est vraiment en lien avec leurs propres valeurs. Puis, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que de savoir que notre enfant risque ou peut-être même est atteint d'une maladie rare comme celle-là, déjà de le savoir et de pouvoir se préparer à la naissance d'un enfant malade, c'est déjà une grosse avancée pour les parents qui décident là, d'avoir des enfants malgré tout. Et donc, peu importe le résultat qui est transmis, peu importe la façon dont c'est reçu, on pense, en tout cas, on souhaite que ce soit de toute façon, que ça revête de toute façon un aspect positif pour ces parents-là, minimalement pour se préparer à la naissance là, d'un enfant qui pourrait être malade ou gravement malade. Donc, moi, j'y vois beaucoup, beaucoup de positif. Puis, il faut savoir aussi que ce n'est pas obligatoire de participer à cette offre de tests de porteurs-là. Et donc, les parents là, qui ne souhaitent pas savoir leur statut de porteur ou connaître leur risque, évidemment, on respecte ça tout à fait.
Une personne sur 20 est porteuse des maladies mentionnées par Dr. Luigi Bouchard. Une sur 20, c'est énorme et on prend donc la situation au sérieux au Saguenay. Il y a de plus en plus d'investissements qui sont mis en place pour répondre aux besoins. Dans le cas de ces quatre maladies, un projet de dépistage prénatal et préconception a été lancé qui s'adresse à tous les parents originaires de la région. L'idée, c'est de leur offrir une information de qualité pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée quant au choix ou non d'avoir un enfant. Et ça peut aussi aider à atténuer le choc à la naissance d'un enfant malade. De plus, il existe d'autres maladies moins graves qui sont maintenant mieux traitées. Dr. Bouchard donne l'exemple d'une maladie héréditaire en particulier, le rachitisme vitamino-dépendant. C'est une condition qui est associée à des retards de développement. Environ un enfant sur 3000 en est atteint dans la région. C'est une maladie qui se traduit en problèmes osseux. Des enfants qui se retrouvent très tôt avec des fractures multiples. Puis en diagnostiquant plus tôt la maladie, on peut la traiter simplement avec de la vitamine D avant l'apparition des premiers symptômes. Une vraie petite potion magique qui a changé la vie de Jonathan Lavoie du Saguenay. Ben, est-ce que tu savais, Judith, pourquoi, qu'est-ce qui fait en sorte que certaines maladies rares sont plus fréquentes au Saguenay?
Ben moi, ce que j'avais entendu dire, c'était que à cause des mariages co-sanguins, que la population n'était pas grande, qu'ils se mariaient tous un entre l'autre. Puis c'était comme ça au Saguenay-Lac-Saint-Jean et aussi dans Charlevoix. Moi, c'est ce que j'avais entendu, là. C'est ce que je croyais, en fait.
Et toi, Jonathan?
Ben c'est... J'ai grandi avec cet esprit-là jusqu'à ce que je rencontre ma conjointe un peu récemment, qui là, m'a parlé de l'effet fondateur, que c'est vraiment une loterie des gens qui sont arrivés de France, qui sont allés à Québec, qui étaient porteurs de ces gènes-là, puis qui se sont déplacés vers Charlevoix, puis ont ensuite été à Saguenay. Puis c'est vraiment un coup de chance d'avoir tous ces gènes-là ramassés à la même endroit. Là.
Jonathan, donc toi, tu es atteint du rachitisme vitamino-dépendant, puis tu as spécifié que c'est l'une des formes, donc il en existe plusieurs variations?
Oui, je pense qu'il existe plusieurs variations du gène, mais celle-là dont je suis atteint, je pense que c'est la plus généralisée dans la région, là.
Ça s'exprime comment? C'est quoi les symptômes?
C'est à la naissance, en fait, c'est qu'on n'est pas capable d'absorber la vitamine D sous sa forme active. Il y a une protéine qui nous permet de transformer la vitamine D en vitamine D active, puis cela, on n'est pas capable de la traiter, donc ça nous prend une forme active de la vitamine D pour pouvoir absorber le calcium qui se trouve naturellement dans les aliments puis dans le soleil. Donc on est dépendant d'un médicament pour le reste de nos jours.
La bonne nouvelle, c'est que dans le balado, on a déjà parlé de médicaments qui sont comme extrêmement durs et coûteux à financer. Là, dans le cas de ton médicament, c'est pas compliqué, en fait. C'est pas, une fois qu'on a diagnostiqué, c'était pas compliqué de résoudre le problème.
C'était de trouver les dosages adéquats avec la croissance d'un enfant normal. Donc, il y avait un suivi assez serré avec un pédiatre tout le long de ma jeunesse. Puis rendu à l'âge adulte, c'est plutôt stable. Puis je vois mon endocrinologue aux 2 ans maintenant, là, depuis à peu près une dizaine d'années plus. Là.
On a convié ta mère autour de la table, de cette table virtuelle-là, Jonathan, parce que, évidemment, que tes souvenirs en bas de l'âge de 2 ans doivent être un peu flous. Donc, on voulait savoir comment ça se passait. Judith, ça a pris du temps avant qu'on réussisse à identifier exactement c'était quoi le problème chez Jonathan?
Bien, dans le fond, ça s'est découvert à l'âge de 1 an. Mais Jonathan, lui, a évolué normalement jusqu'à l'âge de 6 mois. C'était un enfant qui évoluait normalement. Mais à partir de 6 mois, là, ça se dégradait. Là. À 6 mois, il s'assoyait. Après ça, il n'était plus capable de s'asseoir. S'il tombait par en avant, il n'était plus capable de s'asseoir. Il n'était pas capable de se tourner de n'importe quel côté. La nuit, il se réveillait souvent pour que j'aille le tourner parce qu'il avait mal, il avait plus de position. Ses os étaient rendus fragiles, mais on savait pas c'était quoi. Puis quand je consultais les médecins, ils me disaient « Ah, il est paresseux, ça va venir. » Puis, mais là, à un moment donné, rendu à 9-10 mois, j'ai dit « Ben, c'est pas qu'il est paresseux, il est moins rapide qu'il était, là, il en repère tout le temps. » Fait que finalement, ben moi, j'ai une copine qui est atteint du rachitisme. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, ben c'est peut-être ça, le rachitisme. Puis, ça a donné que j'avais un rendez-vous chez le médecin dans la semaine suivante. Puis, à ce moment-là, Jonathan, il y avait 1 an. Fait que quand on est arrivé chez le médecin, tout de suite, j'ai dit, est-ce que ça se pourrait que ce soit du rachitisme? Fait qu'ils ont vérifié ça. Puis, ils voyaient ça aussi par le chapelet costal. Dans le fond, c'est des côtes qui ont plein de petites boules sur les côtes, comme une accumulation de, je sais pas c'est quoi, peut-être du calcium, je pourrais pas dire exactement. Puis, on a pris des prélèvements sanguins. Puis, le lendemain, on savait que c'était ça, là.
Et jusqu'au moment où on trouve, tu sais, un remède, est-ce que tu as senti qu'il y a... Ben là, tu disais que Le médecin qualifiait Jonathan de paresseux dans son développement. Dans les autres sphères, quand venait le temps d'emmener Jonathan à la garderie ailleurs, est-ce que tu as senti qu'il y avait aussi comme une forme de jugement un peu?
Bien, c'était difficile parce que Jonathan, il fallait savoir comment le prendre parce que on le prenait pas comme un enfant normal parce qu'on lui faisait mal. Moi, j'étais habituée là, de le prendre, mais les gardiens n'étaient pas habitués. Un enfant d'un an, tu le prends par les deux mains pour le faire marcher, puis il marche, mais lui, il pleurait. Même pour le changer de couche, là, je pouvais pas le prendre par les deux jambes. Je lui levais les deux fesses, puis il fallait faire attention au fait qu'il disait qu'il était gâté, tout ça. Mais je disais, bien, il n'est pas gâté, il y a quelque chose. Chose, mais on ne sait pas c'est quoi. Fait que j'ai changé de gardienne une couple de fois, mais quand ils ont appris ça, ils étaient vraiment désolés. Là, c'était pas pour mal faire. Là.
Ils se sentaient mal?
Ben oui, ils se sentaient mal, c'est certain, oui.
Puis pour bien comprendre, une fois que tu ingères le médicament, tu sais, il n'y a pas plus de risque de fracture ou tout ça. Là, c'est vraiment... Est-ce qu'on pourrait parler de potion magique carrément dans le cas du petit comprimé?
Ben, je pense que oui, là, même qu'à un point tel que je crois qu'ils sont en train de trouver une potion magique dès la naissance. Maintenant, je pense qu'ils donnent une super dose de vitamine D au nouveau-né, puis ça, je pense que ça peut régler le problème à vie après. Tu n'es plus dépendant des médicaments par la suite. Là.
C'est toi-même, Judith, qui avait mentionné qui avait dit ça. Potion magique, c'est carrément ça. Dans le cas, c'était une potion magique, ouais. pour vos fils.
Bien, c'est ce que je disais, qui était comme Astérix. Il avait besoin d'une potion magique à tous les jours. Mais maintenant, c'est rendu des obélix. Ils en ont juste une fois à la naissance. On est toujours porté à se comparer. Et là, ben non, moi, mon enfant, il ne fait pas ça. Ah non, ben oui, le mien, il le fait. Ben, je disais, ben, je pense qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi encore. Là. Mais quand j'ai appris c'était quoi, j'ai dit, bon, au moins, c'est quand même une maladie que je connaissais de par ma copine. Là, je me disais, c'est quand même une belle maladie, entre guillemets. Là. Il y en a des pires. Ouais. Puis quand j'y regarde aujourd'hui, je me dis, oui, ils sont quand même très bien dans leur vie, là, et actifs en plus.
Docteur Bouchard racontait même que cette avancée, cette potion magique, permet d'éviter des dérapages importants. Par le passé, il y avait des faux cas d'abus rapportés à la DPJ parce qu'un enfant avait constamment des fractures. On comprend mieux maintenant que des maladies rares peuvent être à l'origine de ces fractures et ça évite bien des malentendus. Il y a donc du progrès et des améliorations nettes du côté du Saguenay. On comprend mieux le phénomène. Il y a moins de préjugés associés aux maladies, il y a plus de recherches. Mais le Saguenay n'est pas un cas unique. En faisant nos recherches, on a découvert que la plus récente politique sur les maladies rares du Québec faisait explicitement référence à d'autres populations touchées par des maladies rares, les populations autochtones. Une toute autre réalité que l'on va explorer en profondeur dans le prochain épisode. Réalisation, montage et musique originale, Marie-Hélène Frenette-Assad. À la recherche, Annie Verret. Idée originale et animation, Kevin Breton. Une production, Radio-Canada, audio.